Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Une heure pour débriefer l'actu, ça va. Est-ce que ça va nous suffire? Écoutez, je suis pas sûr, mais en tous les cas, on est très heureux de retrouver nos intervenants ce soir, comme d'habitude. Claudia Cohen est là. Salut Claudia.
Salut François.
Journaliste au Figaro, bien sûr. Tariq Krim est avec nous ce soir. Salut Tariq.
Bonsoir.
Très heureux de te retrouver. Tariq qui vient nous voir de temps en temps, et c'est un vrai bonheur à chaque fois d'écouter tes analyses sur la tech. Fondateur de Cybernetica et homme de la tech depuis quelques années, on va dire, hein, quand même.
Absolument.
Le temps passe.
N'est-ce pas?
Et Frédéric Simotel, bien sûr, sur qui le temps n'a aucun effet.
Voilà.
C'est ça qui est
bonsoir
fort.
Bonsoir à toutes et tous.
Bienvenue Fred. Fred Simotel, journaliste à BFM Business. Actu tech donc chargé, on va beaucoup parler d'intelligence artificielle. J'allais dire pour changer, mais c'est vrai que ça bouge tellement en fait ce sujet. Tout à l'heure, on va parler justement de l'IA générative qui bouleverse les cabinets d'avocats. C'est un article que tu as écrit dans le Figaro. Tu vas nous raconter un petit peu.
Beaucoup de choses à dire.
Voilà, beaucoup. Ce qui est en train de se tramer. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est déjà arrivé.
C'est là. Voilà. C'est là depuis quelques mois.
On va en parler. On parlera aussi du gouvernement français qui a interdit, vous l'avez vu, TikTok en Nouvelle-Calédonie. Pardon. Alors évidemment, c'est l'état d'urgence là-bas. Une situation dramatique, bien sûr, que vous suivez. Mais pourquoi TikTok et pas les autres réseaux sociaux? On essaiera de décrypter tout ça, même si on n'a pas la réponse. Et puis, cette innovation intéressante que prépare AT&T avec un opérateur de satellites. Votre téléphone portable bientôt pourra capter directement le satellite pour communiquer, pour envoyer des vidéos, pour passer des appels, faire des visios. C'est une petite révolution qui va, à mon avis, se généraliser. Frédéric Simotel nous en parlera. Mais pour débuter, l'actu du jour, c'est Grok. Grok, on en avait parlé au tout début de sa sortie. Encore une fois, Elon Musk nous avait pondu un tweet dont il a le secret pour nous dire qu'il voulait se lancer dans l'intelligence artificielle et qu'il lançait Grok. Grok avec un K, une IA générative qui se nourrit en fait du contenu de X. C'est ça qui est intéressant. Et cette IA se veut à la fois, comment dire, anti-ChatGPT, si j'ai bien compris, hein, c'est-à-dire anti-woke, un peu irrévérencieuse, etc., etc. Et donc, la nouveauté, c'est que Grok arrive en Europe.
Dans un premier temps, pour les abonnés payants de X, et puis après les élections européennes, ce sera ouvert à tous les utilisateurs de X. Et comme tu disais, il y a vraiment une ligne politique aussi qui se dessine, en tout cas dans ce que dit Elon Musk, évidemment, sur Grok. Ce qui est intéressant quand même aussi, c'est que tu as deux modes. Tu as un mode que lui appelle le mode fun, où tu poses des questions qui peuvent être très sérieuses, et on te répond parfois avec un ton sarcastique, avec quelques éléments qui peuvent être ubuesques. Et c'est le mode par défaut, le mode fun aussi, donc c'est assez marrant. Et après, tu as le mode classique, évidemment. On a parlé un petit peu la semaine dernière dans ton émission, ce qui est vraiment intéressant par rapport à d'autres chatbots, en fait, aussi, ça va être de pouvoir prendre le pouls des utilisateurs Twitter sur un sujet au quotidien, voire heure par heure. Donc ça présage d'usages assez nouveaux par rapport à certains concurrents qui existent déjà, comme ChatGPT et les autres. Donc ça va être vraiment l'élément différenciant pour Grok.
Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Tariq, mais voilà, cette IA générative Grok est une brique supplémentaire à, on va dire, une plateforme X qui va aller bien au-delà du réseau social. On commence à sentir que Elon Musk, et Fred pourrait nous en parler aussi, qu'Elon Musk est en train de créer une super app avec plein de services, et notamment un service d'IA générative.
J'allais dire Twitter, mais aussi Meta et Google. En fait, d'une certaine manière, ce qu'on voit, c'est qu'on a accumulé tellement de données personnelles. Et la question qui se pose, c'est déjà, est-ce que les services ont le droit d'utiliser ces données personnelles? On l'a vu avec OpenAI. Avez-vous utilisé les données de YouTube? Impossible d'avoir une réponse.
Bien sûr.
Et donc, on se demande...
Il y a plein de médias américains qui ont attaqué OpenAI, justement.
Ouais,
absolument.
Times,
ils ont siphonné toutes leurs données.
Absolument, mais il y a le web public, donc les données auxquelles on a accès en tant qu'acteur X ou Y. Et il y a les données propriétaires dont on dispose. Quand on s'appelle Meta, on a accès à tous les chats de tous les utilisateurs. Quand on s'appelle Twitter, on a accès à toutes les données. Quand on s'appelle Google, on a accès à toutes les données également. Et donc ces données deviennent un trésor, ce qui d'ailleurs pose la question de savoir si la valeur de Twitter, c'était sa valeur en tant qu'application ou sa valeur potentielle en tant qu'énorme j'allais dire manne de données. Alors sur l'aspect woke ou pas woke, il faut quand même rappeler que les LLM sont plus ou moins entraînés de la même manière, mm-hmm. sur les mêmes données. Ce qui change d'un service à l'autre, c'est ce qu'on appelle les prompts. Donc quand on écrit quelque chose, il y a des informations, des paramètres supplémentaires qui sont donnés par OpenAI, par Gemini, par Grok, oui. qui vont donner un certain style par défaut. Mais fondamentalement, on peut changer le style. Donc ça, c'est plus du marketing, à mon avis, qu'autre chose.
Il y a beaucoup moins de paramètres quand même. Il y en a, je regardais tout à l'heure, 33 milliards de paramètres pour Grok versus 2000 milliards pour un ChatGPT. Donc ça aussi, il faut souligner, on n'est pas du tout sur des échelles...
Ce n'est pas la même histoire.
Non, ce n'est pas la même histoire.
Ouais. Ce n'est pas le même coût.
C'est pas le même coût non plus.
Parce que ChatGPT a coûté une fortune et la prochaine version, apparemment, on pense, va dépasser le milliard de dollars. Donc ça pose aussi une autre question, c'est on a toutes les données, mais pour faire des LLM, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance.
Fred, la question que j'ai envie de te poser, à quoi va servir Grok dans X quelle est l'arrière-pensée d'Elon Musk derrière?
Alors déjà, il faut savoir qu'en termes d'infrastructure, Grok va pas tourner comme les autres. Il va aller chez Oracle. Il est en train de signer un contrat de 10 milliards de dollars sur la partie Oracle Cloud. Donc c'est assez marrant de voir. Bon, il veut pas aller chez les grands faiseurs comme il l'est, parce que avec les autres, il est avec Tesla, SpaceX, tout ça, il fonctionne avec les hyperscalers classiques, voire aussi ses propres data centers. Mais là, en tout cas, il vient de signer chez Oracle Cloud. Donc déjà, faut savoir que Larry Ellison, c'est aussi un de ses grands amis, modèles. Enfin voilà, qui était assez atypique aussi à son époque, Larry Ellison. Mais Grok, ça va être un service, c'est vraiment pour venir servir autour de X Twitter. Je pense que lui, il a comparé aux autres qui veulent étendre un maximum d'utilisateurs. Je pense que Elon Musk, oui, il veut que ça reste centré sur l'application X et comme on sait qu'il y a toujours ce côté addictif un peu de ces LLM, le but c'est qu'on reste, on n'aille pas vers un OpenAI parce que tiens je vais aller faire un petit prompt sympathique, c'est rester vraiment dans cet écosystème X. Alors après on verra si c'est moins.
Après excuse-moi je te coupe, mais est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter d'avoir des IA, on va dire, qui représentent des courants de pensée? Parce que on peut se poser la question finalement. Alors on a ChatGPT, Grok,
c'est l'entraînement qui va le faire.
Elon Musk qui veut faire une IA anti-woke et on va dire irrévérencieuse. Demain on pourra avoir une IA, extrême. Enfin, c'est assez étonnant aussi. Est-ce que là aussi il faudrait pas un peu réguler tout ça, légiférer tout ça?
Si chacun a le choix entre différentes IA, ça s'appellera le pluralisme comme il y a dans les médias, et finalement c'est aussi
c'est
une bonne
positif.
Chose. Oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Grok, ça représente deux choses. C'est Grok, donc le service d'IA d'Elon Musk, avec un K, mais avec un Q, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est toujours de l'IA, mais c'est plutôt, on va dire, une plateforme de processeurs hyper performants qui permettent d'apporter des réponses à l'intelligence artificielle générative beaucoup plus rapidement. À la tête de Grok avec un Q, c'est Jonathan Ross, et j'avais le plaisir de le recevoir dans Tech & Co il y a quelques semaines de cela, et je lui ai posé la question. Le fait que Grok avec un K, l'IA donc générative d'Elon Musk, porte exactement le même nom que lui, à une lettre près, est-ce que c'était un problème? On écoute sa réponse tout de suite.
Sans trop entrer dans les détails, parce que nous avons envoyé une lettre à cette entreprise pour qu'ils arrêtent d'utiliser ce nom, mais aux États-Unis, quand on était petit, on a appris quelque chose. C'est vraiment quand on dit Prums, on est propriétaire. Et nous, on a dit Prums sur le nom Grok. Mais vraiment, nous sommes propriétaires de la marque commerciale déposée. Ça a créé pas mal de confusion. C'est pour cela que nous avons envoyé cette lettre pour qu'ils arrêtent d'utiliser le nom. Et je pense que notre propriété intellectuelle sera respectée.
Voilà. Bon, combien de temps encore ça va s'appeler Grok avec un K? C'est ça la question, parce qu'on a l'impression que Jonathan Ross ne va pas se laisser faire.
Jonathan Ross, il faut le rappeler, c'est l'inventeur.
C'est anecdotique, mais bon.
Jonathan Ross, c'est l'inventeur du TPU, la fameuse puce IA chez Google. Donc c'est quelqu'un
qui
a travaillé chez Google, mais qui a compris qu'en fait le vrai business de l'IA, construire le modèle, ça coûte énormément d'argent, et puis ensuite il y a ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire finalement les requêtes. Et lui pense qu'il peut abaisser le coût énormément.
Avec une rapidité, une latence incroyable. Je ne sais pas si vous avez testé Grok, mais c'est dingue.
C'est fantastique. Mais alors, Moi, j'ai une théorie sur Elon Musk, c'est qu'après la phase où il a eu un peu le vent en poupe, là, en ce moment, on est en train de se rendre compte que
il a des vents, il a des vents contraires. Voilà,
entre Tesla, entre il y a quand même, on rentre maintenant dans une période un peu turbulente pour lui, à mon avis.
Ce qui marche bien, mais c'est vrai que Tesla.
Mais il s'en occupe pas. C'est aussi pour ça que ça marche bien.
C'est assez turbulent. Non, faut se rappeler que dans l'histoire de nous, on a déjà connu ça. Hein. L'iPhone, quand Steve Jobs lance l'iPhone, c'est le produit du téléphone IP de Cisco.
Absolument.
Et il en avait rien à faire. Mmh. Et après, ils sont allés négocier avec Cisco, mais quand il a lancé
l'iPhone, un gros chèque.
Oui, non, mais quand même. Il a lancé l'iPhone, Cisco avait encore ses téléphones.
Oui.
Alors, à cadran, enfin, pas des smartphones, hein, des téléphones fixes sur téléphone Internet et qui s'appelait l'iPhone. Et voilà, ça s'est réglé après un coup d'avocat. Après.
Bon, il a bien fait, avec le recul.
Après, là, on est dans un univers un peu plus polémique, on est dans un contexte concurrentiel assez fort. On sait que Elon Musk, voilà, n'est pas forcément bien vu de tous les gens de la Silicon Valley et que beaucoup se réjouissent aujourd'hui de ses difficultés. Donc, et surtout depuis qu'il a repris Twitter, Twitter est pour devenir X. Donc,
Et d'un point de vue publicitaire, ce sera intéressant à suivre, parce que, comme tu disais, Fred, il y a cette volonté que les utilisateurs passent plus de temps sur X. Mais d'un côté, avec Grok, il y a aussi des inquiétudes autour de certaines formes de désinformation ou de mésinformation qu'il peut y avoir, qui, on sait, effraient les publicitaires aussi. Ouais. Donc je me demande économiquement aussi sur quel levier finalement il va pouvoir se rattraper, parce qu'on sait qu'il faut, on le disait plein de fois ici, il y a quand même des lignes de revenus à développer dans les prochaines années. Et je ne sais pas dans quelle mesure Grok pourrait en représenter une, en tout cas.
Et puis là, moi, ce qui est un peu affolant, tu parlais tout à l'heure de régulation, c'est vrai que si Grok, c'est pour dire, tiens, sors-moi les 10 tweets qui disent du bien de Donald Trump, enfin, les gens vont encore plus s'enfermer dans
quelque chose. C'est le danger, en effet.
Mmh. Ouais. C'est ce que disait Sam Altman, a été interviewé il n'y a pas longtemps à Stanford, et il disait une chose très intéressante. Il dit, le danger de la désinformation par l'IA, c'est le fait qu'on peut désinformer chaque personne une par une de manière personnalisée et avec des techniques totalement différentes et en masse. Et donc ça pose un vrai sujet, puisqu'encore une fois, on ne sait pas ce que l'IA a dit, on n'a pas forcément de log de ce qui a été fait, donc il y a un vrai flou juridique là-dessus.
Et en plus, là où, alors dans la partie, quand je présente des sujets B2B autour de l'IA, on parle de la formation, des compétences et tout ça, et là on lâche un peu les gens. Aujourd'hui, on lâche un peu tout le monde
dans la nature.
Avec ces outils, sans leur dire. On essaie de dire attention, le côté, faut vérifier l'information et tout ça. Mais globalement, on lâche quand même. Alors déjà que beaucoup de gens pensent que c'est vrai parce que c'était dans Google. Aujourd'hui, c'est vrai parce que c'est. En plus, ça va me parler de façon tout à fait naturelle en m'affirmant des choses. On rentre quand même dans quelque chose d'assez. Parce qu'il y a plusieurs sortes de malveillance. Hein. Il y a malveillance, on va empoisonner les données. Puis il y a cette malveillance là avec deepfake, et puis cette malveillance là de désinformation, quoi,
qui est vraiment. Et le problème des bots aussi qui est lié, mais ce type de d'IA, ça peut laisser plus de voix aussi aux bots, et donc la possibilité, on en parlait tout à l'heure, mais d'ingérence aussi d'acteurs sur des sujets de débat qui sont absolument stratégiques pour la France. Mais alors, tout à l'heure, il y avait un visio avec la Commission européenne autour de Meta qui s'est vu là c'était autour des enfants qui étaient pas assez protégés, mais ils ont dit un mot sur Grok en disant on va quand même regarder de près ce qui se passe parce qu'il est possible que ça enfreigne quelques règles assez vite.
Je crois qu'il le propose en open source.
Oui, c'est en open source.
Alors c'est l'open source à la Elon Musk, et puis surtout le modèle est tellement gros qu'il faut beaucoup d'argent. Il vaut mieux prendre un système Llama 3 de Facebook ou Mistral, ça marche.
C'est souvent ce qu'on dit quand on open source, on a l'impression qu'on peut lire dedans comme dans un livre.
Voilà, c'est ça.
C'est juste que le code, mais va décrypter du code.
On enchaîne avec un autre sujet toujours lié à l'IA. Vous savez, depuis quelques jours, on vous en parle tous les soirs, c'est la nouvelle version de ChatGPT, la 4o. Qui a pas mal d'avantages par rapport à la précédente version. Elle est gratuite, elle est multimodale, le O c'est le O de Omni, c'est-à-dire qu'elle est aussi à l'aise avec l'écrit qu'avec l'audio et la vidéo, et puis surtout elle a un délai de latence qui est beaucoup plus. On parlait tout à l'heure de la puissance de Grok de Jonathan Ross, et bien on voit que OpenAI essaie de régler ce problème de latence, parce que effectivement, si demain on arrive à avoir une instantanéité dans les réponses, ça va tout changer en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que un petit objet a été mis à jour, Fred. C'est le petit objet l'AI-PIN qu'on a évoqué plusieurs fois dans Tech & Co,
qui était décevant, enfin voilà,
qui était décevant et qui a été mis à jour très très vite avec ChatGPT 4o. Et effectivement, comme cet appareil repose sur l'IA, ça peut peut-être lui donner un second souffle.
Oui, mais le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde est en train d'essayer de rattraper un peu cette IA. Hein. On voit les nouveaux PC au Mobile Congress, quand on a vu tous les nouveaux PC qui sont sortis. En 6 mois, les gens se sont dit, flûte, il faut qu'on rajoute de l'IA dedans. Et d'ailleurs, le premier Apple était complètement surpris par ça, vu qu'il a mis énormément de temps. Alors, on verra le 10 juin ce qu'il va mettre dans son smartphone. Est-ce que c'est de l'OpenAI, comme on le pressent, comme le dit la rumeur. Mais je pense que le souci, c'est ça. Enfin, je vais laisser Tariq le dire, parce que c'est lui qui mettait cette idée en avant.
Ouais.
Et puis, attends, le fait qu'ils aient travaillé sur ces produits-là.
Avant, parle-nous du fondateur de AI-PIN, donc la société Human. Tu le connais ?
Je l'ai rencontré. J'ai un ami qui a investi dans la boîte et c'est des anciens d'Apple.
Oui. C'est un couple d'ailleurs, je crois.
Oui, ils sont très très bons en interaction. Et ils ont imaginé. Alors, moi, je pense que le problème qu'a ce produit, c'est qu'il a été inventé avant ChatGPT. Et à la fois, ChatGPT a donné un coup de vieux à ce produit, qui est un peu le système de Star Trek, tu sais, où on appuyait sur ça et on a les informations. Avec une idée très intéressante, c'était le retour visuel sur la main. Mais à côté de ça, il y a le Rabbit qui est sorti, Rabbit Air 1, qui est un petit outil qui, à mon avis, va être aussi mis à jour, qui coûte $200 et qui est un device.
Moi, des hackers qui l'ont fait.
J'imagine, oui. Mais moi, ce qui me fascine et m'interroge avec ça, c'est que pour la première fois, en 15 ans, j'imagine que le mobile n'a plus d'intérêt, il va disparaître. Et je pense que dans les 5 ans qui viennent...
Oula, c'est fort ce que tu dis. Notre mobile, celui-là, là, qu'on a tous dans la poche.
Quand j'ai le mobile, c'est à l'expérience où tu fragmentes ta vie dans des applications qui sont en compétition en permanence avec les notifications. On va maintenant, en fait, quand on regarde d'une certaine manière le fameux O, le nouveau GPT-4O, ce qu'on se dit... C'est que, déjà, c'est ce qu'Apple aurait dû faire depuis 5 ans avec Siri, ou même depuis 10 ans. Et il y a également une vidéo similaire de Google. Alors, Google a fait un peu de vaporware, mais ils ont des très très beaux produits en réserve, un peu similaire avec le téléphone. Mm-hmm. Mais en fait, on va rentrer dans un monde où l'OS va devenir génératif. C'est-à-dire, par exemple, tu veux prendre un Uber, l'OS va créer l'application, va faire les API calls, va la structurer, et puis quand tu n'en as plus besoin, elle enlève. Et à chaque fois, tu vas parler avec ton téléphone, ils ont fait ci, fait ça. Et donc, on peut imaginer, alors je ne dis pas qu'on en est là, mais on peut imaginer un environnement dans lequel les applications, et donc l'économie des apps, disparaissent. Apple, c'est un vrai problème.
C'est intéressant.
Je pense que même dans l'entreprise, on va arriver à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ouvre son PC plutôt sur sa messagerie aujourd'hui, certains sur Twitter et tout ça, c'est qu'on va finir par avoir un prompt et dire, donne-moi les 10 mails les plus importants. Je dois rappeler les 12 clients qui ont le chiffre d'affaires qui baisse de moins 2%, il va se connecter au Salesforce. Et puis, rappelle-moi, j'ai 2 mémos à écrire pour un client. Pour un DG, et on va avoir une interface. Enfin, je peux pas l'imaginer aujourd'hui, mais je pense qu'on est. Et là, il y a une vraie bataille qui est en train de se faire. Ce sera plus Outlook, notre interface de départ. Ce sera pas non plus un navigateur. Ce sera plus non plus l'ouverture de l'appli Salesforce. On est en train de changer aussi, de la même façon que sur le smartphone, on va parler. Et alors, peut-être qu'on parlera aussi à notre PC, et certainement. Mais je pense qu'on est vraiment.
Est-ce que vous pensez que la voix.
Une nouvelle réflexion
de. On fantasme beaucoup sur la voix, mais la voix n'est pas pratique partout. Imaginez dans un open space.
Oui, puis il y a une notion.
C'est impossible. Je veux dire,
c'est l'interface unique, quoi. Enfin, tu vois.
Oui, c'est l'interface unique, mais enfin non, elle n'est pas unique. Elle est pratique, mais elle n'est pas unique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres interfaces. Il y a l'écrit.
Non. Quand j'ai dit interface unique, c'est le avec le téléphone, je pense que ce sera la voix, mais avec le PC,
il y a plein de choses.
Je pense qu'à le PC,
il y a plein de choses que tu peux pas faire avec la voix.
Oui, mais sur le PC, ce sera encore le clavier.
Et regarde les jeunes, à part des vocaux, n'appellent plus.
Là, je parlais de l'interface graphique.
Alors.
Oui, puis il y a l'aspect. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur la voix. Enfin, je vois mal tout le monde dans les transports, au bureau ou même chez soi aussi. Et puis il y a une notion aussi de. On a envie peut-être de faire des choses, sans que ce soit illégal ou quoi, mais privé aussi. Enfin, notion de privé. Ouais,
t'imagines si dans le métro tout le monde commence à parler.
Et aussi sur la vidéo aussi, pardon, mais le gros usage qui est fait, notamment des jeunes du smartphone, c'est pour consommer de la vidéo sur des réseaux sociaux. Et moi, j'ai du mal à me dire comment cette vidéo sera consommée ailleurs que sur un smartphone.
Oui, il faudra toujours
où il y a un écran en fait.
Ouais,
je pense qu'il y aura toujours ce besoin d'écran.
Disons-le différemment, parce que je suis absolument d'accord. Je pense que le monde de l'IA est en train de diverger en deux. Il va y avoir d'abord les outils de productivité, d'hyper-productivité. C'est ChatGPT, fais-moi ci, fais-moi ça, enfin, ce que tu viens de dire. Et il y a, à mon avis, une nouvelle catégorie, parce que quand on regarde les chiffres de l'IA, aucun service n'a dépassé les 150 millions d'utilisateurs, en gros OpenAI. Et la vraie question, c'est qui arrivera à mettre un produit qui est utilisé par 1 milliard de gens. Alors, la personne qui est la plus motivée pour y arriver, c'est Mark Zuckerberg. Si vous regardez en demi-teinte ce qu'il a dit, c'est clair qu'il veut aller dans cette direction. Google est obligé. S'ils n'y vont pas, à mon avis, Sundar, c'est au revoir. Et Apple devrait y être. Et d'une certaine manière, Elon Musk essaye de dire « je suis aussi sur la course ». Mais le vrai business, alors je ne sais pas comment l'appeler, je parle de Personal Solitude Manager, donc des outils. Le nombre de gens sur la planète qui n'ont personne à qui parler.
Non, mais ça, c'est autre chose. Là, je suis tout à fait d'accord. Alors
après, moi, quand on parle de la voix est une des interfaces, mais tu peux commencer sur de la voix, finir avec du texte. Je pense que ce n'est pas la vraie question. La question, c'est que tu as une conversation unique, enfin unique avec un appareil qui va être totalement génératif. Et si tu fais ça, vous savez, quand vous allez en Chine, vous achetez un iPhone ou un Android, et à la fin, vous mettez WeChat, et c'est la seule application que vous utilisez. Et donc, cette idée de super app, qui n'est pas si ridicule que ça, c'est peut-être ce que OpenAI est en train de montrer. Alors après, il faudra peut-être 5 ans, mais...
Voilà. Et justement, parce que tu citais tous les acteurs, et je pense qu'il y en a un qu'on...
OpenAI, le roi du smartphone pour Tariq, dans quelques années. Ouais,
mais je pense que c'est...
On verra le 10 juin.
Et quelque part, moi, je pense que c'est la revanche de Bill Gates, parce qu'on dit que Bill Gates agit beaucoup en sous-main, encore chez Microsoft, encore c'est lui qui aurait poussé un peu OpenAI en 2017 dans les bras de Satya Nadella. Et Bill Gates, faut se souvenir, c'est une conférence qu'il a tenue, c'est peut-être juste après le Covid ou juste avant, où il a dit, mais arrêtez sur les applications, bientôt on parlera. Simplement, on dira je veux un voyage, enfin tout ça, et l'interface ce sera la voix. Et je pense que lui, il y croit beaucoup à cette interface unique par la voix, interface unique sur l'écran aussi. On aura une interface graphique, un peu comme aujourd'hui, notre navigateur, on tape plus l'adresse mail, on a Google, on commence à taper sur ChatGPT, mais on a Google, on tape et puis ça nous envoie vers les sites, ça nous sort la liste de sites.
Mais je pense que la même chose. Rejoins ce que disait Tariq. Tout dépend du lieu. Dans la voiture, ce sera la voix. Peut-être en rentrant à la maison, quand on jettera son sac à dos, on passera la voix, parce que pour piloter des trucs, etc. Mais il y aura toujours des moments d'intimité où on sera obligé d'avoir un écran et un clavier. Je pense. Enfin, je sais pas ce que.
Non, mais bien sûr.
Quelle est votre vision des choses? Oui, mais du coup, faut accepter aussi que de cette app ou cette interface décide de beaucoup de choses à notre place aussi. Tu donnais l'exemple des mails, par exemple,
faciliter
de trier la pertinence, etc. Qui est là pour juger de la pertinence? Enfin, pour moi, c'est aussi une certaine forme d'abandon de certaines du jugement critique que je peux avoir dans ma vie sur pas mal d'aspects. Et je sais pas si c'est quelque chose que tout le monde souhaite non plus.
Parce que ce dont tu parles, c'est la productivité. Moi, je crois vraiment qu'il y a une nouvelle catégorie qui n'existe pas aujourd'hui. C'est la gestion de la solitude. Quand tu regardes les deux grands problèmes mondiaux, tu as d'un côté l'obésité, donc tu as des boîtes comme avec l'Ozempic, les nouvelles drogues pour ça, et la solitude.
Pas de drogue, médicaments, tu veux.
Oui, j'entends, oui, excusez-moi.
Parce que tu dis à l'américaine.
Médicaments,
c'est pas une drogue, c'est un médicament.
Médicaments. Et de l'autre côté, tu as cette question de la solitude où tu as des milliards de gens, des personnes âgées, des jeunes, qui vont commencer à se dire si j'ai un ami virtuel avec qui je discute. Alors je dis pas que c'est une bonne chose,
Moi j'ai fait une enquête que j'étais venue présenter sur le plateau de François. C'était un peu demain, parlons tous avec des IA, et tu avais ce côté en fait très sentimental, psychologique, et la capacité de développer une vraie relation avec une interface finalement.
Mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Une personne âgée qui est toute seule, on a déjà eu cette discussion. L'IA générative va complètement changer la donne, c'est clair. À la fois pour les surveiller, pour les aider, pour les divertir. Et puis en plus, elle pourra s'adapter à leur niveau intellectuel, à leur goût, etc. Ça va être.
Je me permets, ouais, parce que je me permets juste de dire que j'ai pas d'avis encore sur ce genre de produit. Moi, personnellement, la voix, ça me gonfle quand ChatGPT me parle. Je dis, on passe en mode texte. Mais je pense qu'il y a cette nouvelle catégorie, comme on a eu les réseaux sociaux aussi. Ça n'existait pas il y a 15 ans et cette nouvelle catégorie. Maintenant, on est au bout du. Ouais. On est vraiment au bout. Hein. C'est un potentiel et je pense que tous les acteurs regardent ça et n'ont pas encore le bon produit. Et les plus avancés, c'est peut-être OpenAI.
Ouais. Mais Apple qui doit vite réagir.
À voir.
Mais c'est parce que la voix, on n'a pas eu des outils ultra performants.
Non.
Je pense que les générations qui arrivent aujourd'hui, qui voient, tu commences à voir comment c'est performant. Nous,
c'est extraordinaire.
Siri, ça n'était pas. Même dicter un SMS, on peut dicter un SMS. Il y a toujours 2-3 erreurs qui se glissent dedans. Et je pense que plus ça va s'améliorer, plus les générations derrière va utiliser. Après, on risque de voir comme beaucoup. Aux États-Unis, tu vas dans les bureaux aux États-Unis, ils ont un casque, leur écouteur, t'entends pas un bruit, les gens sont au téléphone, ils ont tous appris à parler un peu moins fort et ils sont dans leur bulle chacun. Ils ont tous leur, enfin c'est impressionnant hein, quand on voit les bureaux là-bas. Donc là, tu dis dans un open space, oui ils ont un passionné, là tout le monde aura un casque avec un petit écouteur et ça en gênera plus personne.
C'est passionnant parce que on lance comme ça des pistes, on sait que ça va arriver peut-être plus rapidement qu'on peut l'imaginer quand on voit la progression de l'IA générative depuis un an et demi, c'est incroyable. Voilà, et j'espère que vous appréciez aussi toutes ces visions un peu comme ça, prédictives de notre futur. Vous restez avec nous, Claudia, Tariq et Fred.